Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Marilyn Hérault.
Sud Radio, 8h45, c'est l'heure des grands débats du matin et on accueille nos deux éditorialistes, Arlette Chabot et Philippe Bilger. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et au 0826-300-300. On attend vos réactions sur différents sujets.
Bien sûr, et on commence avec Philippe Bilger. Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe.
Bonjour Benjamin, bonjour Marilyn. Bonjour
avec votre édito, vous nous parlez d'Éric Zemmour. Emmener Zemmour au second tour, c'est faire réélire Macron, selon vous?
Je le pense vraiment, mais entendons-nous, on peut considérer que toutes les candidatures qui vont devenir officielles un jour sont toutes relativement estimables dès lors qu'une partie de la démocratie française pourra s'attacher à elles. Mais je suis frappé de voir que, plus que dans d'autres élections, aujourd'hui, on peut dire que, même si bien sûr la campagne officielle n'a pas encore commencé et que tous les candidats ne sont pas connus, je sens tout de même un mouvement tout à fait contradictoire. Une partie des citoyens veut exprimer son opinion avec vigueur, voire avec violence, en votant pour un candidat, et ce sera une sorte d'exutoire démocratique. Et il y en a d'autres qui ne voudraient que aboutir à un résultat politique, soit confirmer Emmanuel Macron. J'en vois évidemment beaucoup du côté de La République En Marche, soit éviter sa réélection. Et là, pardon de le dire, je n'imagine pas que Marine Le Pen hier, pas plus qu'Éric Zemmour aujourd'hui, n'ait la moindre chance contre Emmanuel Macron au second tour. Et donc, quel est le parti, et je ne parle pas pour ma chapelle, entendons-nous Benjamin,
oui,
qui peut espérer gagner au second tour face à Emmanuel Macron? Pour l'instant, je n'en vois qu'un, mais il y en aura peut-être d'autres. C'est un candidat des Républicains. Et d'ailleurs, cela confirme les intentions de vote qui ont été faites il y a quelques semaines ou quelques mois. Donc, est-ce qu'on fait le vote utile ou le vote qui fait plaisir?
Merci beaucoup. Bah, on va faire réagir, bien sûr, Philippe. Alors, 0826-300-300, nos auditeurs. Bien sûr, vous nous appelez dès à présent. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Et puis, Arlette Chabot également. Vous avez entendu ce que disait à l'instant Philippe Bilger sur ce second tour. Le seul, notamment, on retient, le seul candidat qui est capable, selon lui, et c'est vrai que c'est ce qu'on voit, en tout cas, du côté des sondages, de battre Emmanuel Macron au second tour, ce serait un candidat DLR. Aujourd'hui, on ne voit rien d'autre?
Non, je pense que c'est effectivement la seule hypothèse. En même temps, il n'est pas du tout acquis que le candidat désigné ou la candidate désignée par les Républicains soit qualifiée pour le second tour. C'est quand même pas négligeable, oui, si on a l'ambition de battre Emmanuel Macron. Donc pour l'instant, on voit bien que les trois sont dans un mouchoir de poche, très très serré, les scores sont serrés. Oui. Entre Marine Le Pen, Éric Zemmour et le ou la représentante des Républicains, qui d'ailleurs, ces derniers jours, était aussi en recul. Certains disent qu'Éric Zemmour plafonne. Du côté des Républicains aussi, les sondages n'étaient pas très encourageants. Donc il faudrait effectivement que le candidat ou la candidate des Républicains soit qualifié pour le second tour, ce qui permettrait d'abord au parti de souffler et d'espérer survivre à l'élection et au rendez-vous de 2022, ce qui n'est absolument pas acquis. C'est la seule, sans doute, hypothèse pour battre Emmanuel Macron. Aujourd'hui, c'est la plus sérieuse. Et Philippe Bilger a sans doute raison de dire que finalement, Éric Zemmour n'a pas plus de chances de gagner que Marine Le Pen, et que son ambition de rassembler les droites, c'est-à-dire la droite nationale qui est derrière Marine Le Pen et une partie des Républicains, de la droite traditionnelle, eh bien ce pari, il n'est pas certain de le gagner. Alors maintenant, il faut attendre, être patient. Éric Zemmour n'a pas déclaré sa candidature et surtout les Républicains n'ont pas fait leur choix. Et du choix, évidemment, découlera aussi de façon importante l'avenir d'Éric Zemmour.
Il y a la question de l'abstention aussi qui se pose encore et toujours et qui fait que finalement cette élection présidentielle elle est encore très floue. On parlait d'exutoire et d'inquiétude démocratique. Je sentais aussi de votre part, Philippe Bilger, avant de vous redonner la parole, c'est quelque chose aussi sur lequel vous souscrivez justement, Arlette, cette inquiétude démocratique d'exutoire finalement d'avoir, de se retrouver avec deux candidats face à face au second tour. Au final, on fait un choix par élimination d'une certaine façon, quoi.
Oui, mais ça, c'est exactement ce que les Français ne voulaient pas, au fond. Ils ne voulaient pas d'abord d'un retour du match Marine Le Pen, évidemment Emmanuel Macron. C'est la raison pour laquelle ils sont à la recherche sans doute d'autres candidats, y compris du côté de la droite nationale avec Éric Zemmour. Mais surtout, ce que ne veulent pas, ce sont notamment des candidats de gauche qui auraient en quelque sorte, encore une fois, un vote un peu forcé parce que, pour faire barrage à la droite extrême, eh bien, on choisit Emmanuel Macron. Donc, si on va retrouver peut-être effectivement les incertitudes ou les questions d'il y a un an, avec évidemment un gros, gros mystère et un gros point d'interrogation lié à l'abstention qui, cette fois, pourrait être très forte, ce qui n'est pas le cas dans une élection présidentielle en France.
Vous l'avez évoqué, Arlette Chabot, il y a cette impression depuis quelques jours, là, sur les derniers sondages en tout cas, que Éric Zemmour, la dynamique Éric Zemmour commence à flancher très légèrement. Philippe Bilger, quand vous voyez justement un petit peu ces sondages et ce petit coup de mou, on pourrait dire, sur cette candidature pas encore officielle, hein, on le rappelle bien sûr encore et toujours, d'Éric Zemmour, vous pensez que ça a du sens? Ça veut dire quelque chose véritablement?
Mon cher Benjamin, je n'ai pas eu les mêmes données que vous. J'ai eu l'impression que ces derniers jours, il y a un sondage en particulier qu'il mettait encore un petit peu plus haut. Mais tout ça n'a pas de sens, à mon avis, tant qu'Éric Zemmour ne sera pas officiellement candidat. Pour l'instant, il espère que ses lecteurs deviendront des électeurs. Rien n'est gagné. Et pour le reste, je rejoins évidemment mon ami Arlette Chabot. J'ai sauté à esprit joint, si j'ose dire, sur le 4 décembre et le premier tour des présidentielles. Ça va de soi. Il faut que le candidat des Républicains soit au second tour. Mais vous aurez noté, Benjamin, que pourquoi un candidat des Républicains a peut-être une chance s'il est au second tour, c'est que tout naturellement, une partie de la gauche se reportera vers lui, même si on affirme depuis quelque temps que certains électeurs de gauche serait tenté par Éric Zemmour, ce que j'ai du mal à croire tout de même.
Autre sujet, si vous le voulez bien, Arlette Chabot et Philippe Bilger, on en parlait avec Elisabeth Lévy, c'était le sujet de sa chronique Lévy sans interdit, la question des peines de prison automatiques pour les agresseurs de policiers. 82% des Français y sont favorables. Déjà, je me tournais vers vous, Philippe Bilger, l'ancien magistrat. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce résultat-là, de ce sondage-là et de ce sujet aussi dont on entend parler depuis quelque temps, de cette mesure, notamment Xavier Bertrand qui l'avait soulevé.
Mais on ne sollicitera jamais en vain les Français, Benjamin, pour les entraîner vers une forme de rigueur. C'est une évidence. Et j'ose dire que le quinquennat d'Emmanuel Macron les a frustrés sur le plan de l'autorité régalienne. Mais je ne suis pas dans ce domaine. Et ça n'est pas offenser Xavier Bertrand que de dire que il est délicat de mettre en œuvre des peines automatiques comme si elles laissaient croire qu'à aucun moment on discutera avant de l'innocence ou de la culpabilité. Il me semble, pour reprendre le débat récent qu'on a eu avec les Républicains, que par exemple l'attitude d'un Éric Ciotti, pour simple, voire simpliste qu'elle pouvait apparaître, était beaucoup plus cohérente que celle de mon ami Xavier Bertrand, qui était trop complexe pour ce qu'il voulait avoir de dur, de mon point de vue.
Arlette Chabot, ça vous surprend, vous-même, ce sondage-là, ce résultat, cette immense majorité des Français, même du côté des jeunes, beaucoup de jeunes qui sont favorables à ces peines automatiques pour les agresseurs de policiers.
Là, je vais reprendre le mot de Philippe, rigueur. Ouais. Les Français demandent davantage de rigueur, en fait, parce qu'ils ont été frustrés, dit-il, pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc je pense que ce virage, cette attente, cette inquiétude des Français qui s'expriment sur les sujets, évidemment, de sécurité ou, par extension, d'immigration, conduisent à ce genre de demande ou d'exigence. Maintenant, moi, j'en suis restée à l'individualisation de la peine. C'est comme ça, Philippe. Peines automatiques, c'est vrai que bon, Philippe le sait mieux que moi, et c'est lui qui effectivement peut donner des infos, mais tout ça n'a pas grand sens. Mais on est dans la surenchère, et c'est vrai aussi dans son victime, les Républicains. C'est celui qui aura les mesures les plus dures pour montrer qu'effectivement, avec lui, et faire croire que cette fois, la droite fera vraiment une politique de droite et éviter la concurrence Zemmour, évidemment.
Merci beaucoup. En tout cas, vous restez avec nous, Arlette Chabot, Philippe Bilger. On sera au Standard de Sud Radio dans quelques instants, juste après les infos avec Daniel, qui sera avec nous pour bien nous parler d'un sujet d'actualité dont il voulait parler ce matin sur Sud Radio. On revient dans un instant, Marilyn, bien sûr. C'est à 8h56 sur Sud Radio. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Marilyn Hérault.
Restez avec nous, il est 9h04. Dans quelques instants, on parlera de la conférence internationale sur la Libye qui a lieu à Paris. On en parlera avec Pierre Conessa, journaliste, historien, rédacteur en chef de la Cohorte, magazine de la Société des membres de la Légion d'honneur. Mais pour l'instant, c'est la suite des grands débats du matin avec nos deux éditorialistes, Arlette Chabot et Philippe Bilger.
Et on va parler d'international avec cette énorme crise à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Sur cette frontière, du côté de la Biélorussie, des migrants qui arrivent en masse et qui sont bloqués sur cette frontière. Une crise migratoire importante, très importante. Et en l'occurrence, la position française qui dénonce du côté de la Biélorussie, notamment du chantage de cette façon-là. Juste pour revenir sur cette crise-là, ça fait penser effectivement, Arlette Chabot, sur ce qu'on a pu vivre aussi avec la Turquie d'une certaine façon. Est-ce qu'il n'y a pas ici une défaillance, un problème du côté de l'Europe pour faire face à ce type de chantage ?
Alors, c'est un chantage. Il faut dire que, et ça c'est une différence avec la Turquie, les réfugiés sont arrivés à pied. Venant de Syrie ou venant d'Irak. La Turquie accueille à peu près 3 millions de réfugiés sur son sol. Donc il y a un chantage, une pression de la Turquie que l'Union européenne a payé pour que les migrants restent en Turquie et ne franchissent pas les frontières. C'est totalement différent de ce qui se passe évidemment en Biélorussie, où là, ce n'est pas une crise migratoire, c'est une opération politique menée par la Biélorussie, avec l'appui de la Russie et de Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'on est allé chercher en avion des migrants et on les a amenés à la frontière polonaise. Objectif, déstabiliser l'Europe. L'Europe qui a sanctionné la Biélorussie parce qu'elle est dirigée par un dictateur qui, effectivement, ne respecte pas, c'est le moins qu'on puisse dire, droits de l'homme et démocratie. On se souvient qu'il avait détourné un avion pour récupérer des opposants. Donc,
et il avait prévenu à ce moment-là, il avait dit Loukachenko, qu'il avait prévenu que justement il emmènerait des migrants, en tout cas, qu'il allait faire peser cette menace-là sur l'Europe.
Parce qu'il connaît l'Europe, parce qu'il connaît le point faible de l'Europe, c'est-à-dire l'immigration, et que ça joue à la frontière polonaise qui, elle-même, la Pologne, est en difficulté et en désaccord avec la Commission européenne et l'Union européenne pour d'autres raisons, c'est-à-dire la prédominance de la loi constitutionnelle sur les règlements et les directives européennes. Donc, c'est une opération déstabilisation de l'Europe. Donc, c'est totalement différent. Et ce n'est pas une crise migratoire. C'est l'utilisation des migrants comme arme. Donc, c'est totalement... Alors, on ne parle même pas moralement... absolument scandaleux. Et le problème, c'est pour l'Europe, encore une fois, de trouver une solution commune. Et ce n'est pas facile. D'autres représailles ou bien une solution politique. Et ça passe évidemment par aussi des discussions avec Vladimir Poutine.
Ben on va poser une question très difficile à Philippe Bilger. Une question à 1 million d'euros, justement. C'est quoi la solution la plus efficace, finalement, pour répondre à ce chantage, selon vous, de la part de la Biélorussie, Philippe Bilger ?
Eh bien, Benjamin, si vous le permettez, d'abord je voudrais vous rendre grâce parce que je n'avais pas eu vent du dernier sondage concernant Éric Zemmour. Et donc vous aviez totalement raison dans votre question.
Le sondage est là, dans l'occurrence.
Mais,
oui.
Voilà, mais je rejoins bien sûr Arlette Chabot. Il y a deux choses qui me frappent et je répondrai, j'essaierai de vous donner une réponse sincère sur ce qu'il faut accomplir. D'une part, je note tout de même que dans un monde qui parle beaucoup des droits de l'homme, de la démocratie, de la morale, eh bien les autocrates ont un poids phénoménal. Loukachenko fait pour l'instant absolument ce qu'il veut. Donc notre démocratie mondiale est très impuissante à mettre en œuvre les principes et les valeurs qu'elle proclame. Deuxième point, et là aussi Arlette a raison, je suis frappé de voir, pour reprendre l'expression de Clausewitz, à quel point les migrants deviennent le moyen de continuer la guerre par d'autres moyens. Ils deviennent un matériel humain, un objet collectif. C'est un scandale. Alors, mon cher Benjamin, comment faire ? Il faudrait tout simplement que l'Europe ne soit plus l'Europe et qu'elle soit capable non seulement d'affirmer formellement une fermeté, une autorité, mais qu'elle n'hésite pas concrètement à les mettre en œuvre. Mon propos ne nous avancera guère, mais je n'en vois pas d'autre.
Juste une réaction là-dessus, Arlette Chabot, sur ce que disait à l'instant Philippe Bizard. Il faut que l'Europe ne soit plus l'Europe. Ça vous parle justement cette formule-là ?
Ça veut dire, je pense, Philippe me corrigera si je me trompe, c'est-à-dire qu'il faut que l'Europe se montre ferme. Voilà, oui. Extrêmement ferme. Alors, bien entendu, c'est pour ça que j'évoquais d'autres sanctions économiques. On ne sait pas si ça marchera. Généralement, les sanctions économiques, ça ne marche pas très bien. Mais on peut l'imaginer pour bloquer notamment les exportations venant de Biélorussie. Bon, on peut imaginer ça, évidemment. Après, quoi, les autres mesures fermes ? Certains disent on va établir un mur à la frontière polonaise, que veulent aussi faire les Polonais. Là aussi, il y a discussion, parce que la présidente de la Commission européenne dit qu'il n'est pas question de faire ou de construire des murs en Europe. Mais je pense qu'effectivement, il faut que l'Europe, d'abord, soit unie, ce qui n'est pas toujours le cas en matière d'immigration. Évidemment, on le sait, il y a des positions différentes. Qu'elle soutienne la Pologne. Et ensuite, encore une fois, sanctions économiques peut-être, mais en tout cas, que demain, il y a un discours assez fort face à Vladimir Poutine. C'est pas facile, c'est pas ce que l'Europe sait de faire de mieux. Et si on l'attaque sur l'immigration, c'est parce qu'on sait effectivement, encore une fois, que c'est un point faible.
Un énorme test, un énorme défi, effectivement.
Défi aussi pour Emmanuel Macron.
Pour l'Europe.
D'ailleurs,
parce
si que ça
en
se
janvier,
règle pas vite,
voilà, ça va lui retomber
si
la patate chaude sur lui.
Si hein. cette crise ne en se janvier. Règle pas vite, la France et le président de la République, évidemment, président de l'Union européenne. Et un des défis pour lui, c'est déjà, il a annoncé la politique d'immigration pour qu'elle soit efficace. Alors là, c'est un sujet supplémentaire.
Mais peut-être d'abord un défi pour Emmanuel Macron. Vous avez raison de le rappeler, Arlette Chabot. On file au standard.
Oui, oui, on a beaucoup d'auditeurs, notamment Daniel de Millau qui souhaitait réagir. Il nous a appelé au 0826 300 300. Bienvenue Daniel, bonjour.
Bonjour Daniel.
Bonsoir à tout, bonjour à tout le monde.
Sur quel sujet vous vouliez réagir ce matin ? Quelle actualité vous
on
fait
vous
réagir ?
Écoute.
Alors l'actualité, en fait, c'est sur le Covid, quoi.
Ouais.
La cinquième vague que tout le monde parle. Et moi, je voudrais répondre à Macron aussi sur le sujet. Et un petit mot pour dire aux commerçants français que je les comprends, qu'ils en ont marre de ces gilets jaunes qui arrêtent pas leur manifestation. Alors voilà, déjà sur la cinquième vague, moi je me pose la question, comment ça se fait que la Suède, elle va arrêter les vaccins ? Parce que comme ils ont dit dans une tribune, la proportion des effets secondaires par rapport à la proportion des morts dues au vaccin, dues au Covid, elle est démesurée. C'est 1 pour 10, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 10 vaccinés qui ont des effets secondaires pour un mort du Covid. Ça, c'est une chose. Moi, je me pose la question. Donc, cinquième vague, j'y crois pas trop. Maintenant, je vais dire à Macron...
Juste pour préciser, hein, du côté de la Suède dont vous parliez, on est à 67% de Suédois doublement vaccinés. Hein.
Oui, oui. Mais comme ils disent, les effets secondaires sont deux fois plus destructeurs qu'il y a de morts par le Covid.
Alors vous pourrez me donner l'étude, parce que moi, j'ai lu nulle part, ça.
Non, moi non plus.
Oui,
bon, on ne l'a pas.
Renseignez-vous. On ne l'a pas.
Renseignez-vous, parce qu'il y a des fois des journalistes qui veulent bien regarder ce qu'ils ont envie de regarder.
Alors, Daniel, alors juste par contre là-dessus, je vais préciser, et c'est important de le faire. Je peux vous dire que, parce qu'en l'occurrence, on est journaliste ici, et je peux vous dire que le travail, on le fait, qu'on lit beaucoup de choses, beaucoup d'études là-dessus, comme jamais on ne l'a fait auparavant. Je peux vous dire qu'on lit beaucoup. Donc là-dessus, on fait notre maximum. Et le but à Sud Radio, parlons vrai, c'est pas de vous désinformer, hein. là-dessus. Justement, non, quand mais... on a, quand il y a des, quand il y a des, quand il y a des choses qui sortent effectivement des études, on en parle. Il y a aucun souci là-dessus. Voilà. Oh, sauf oui, que, voilà, non mais c'est juste pour être clair. C'est important oui, de le dire. Donc transparence, bien sûr, sur Sud Radio. Et c'est pour ça quand vous me dites sur l'exemple suédois. Où on est tous autour de la table à ne pas avoir entendu justement parler de ça, à ce moment-là, bah, vous nous donnez votre source, vous nous parlez justement de l'étude en question que vous avez pu consulter.
Et on la lira.
Et nous, on la lira, voilà. Mais il n'y a pas de volonté de désinformation derrière. Ensuite, vous voyez... Allez-y, Daniel.
Pas de souci. Regardez, cherchez, vous verrez que vous allez trouver. Maintenant, c'est sur Macron. Toujours pareil, vous voyez, le Covid.
On va conclure là-dessus, Daniel. Oui, allez-y.
Oui, ben moi, je veux dire à Macron, vous voyez, je veux dire à Macron que qui vende toutes les entreprises du CAC 40 pour rembourser ses frais de campagne de la dernière campagne ? Ça ne me gêne pas. Je m'en fous, vous voyez. Mais alors, royalement, qui vende tout, vous voyez ? Seulement, qui ne touche pas à nos enfants ? Que les Israéliens, que les Américains vendent la santé de leurs enfants aux laboratoires pharmaceutiques, voyez.
Alors là, je suis désolé, Daniel, mais je vais devoir vous arrêter puisque voilà, là-dessus, on peut pas être d'accord avec vous.
Oui, je sais.
Je suis désolé, mais
c'est pas
une question d'accepter. C'est pas une question d'accepter, Daniel. Vous me dites, la Suède a arrêté les vaccins. En l'occurrence, c'est faux. Pour le coup, ils ont arrêté du côté de Moderna, en l'occurrence.
Pour les moins de 30 ans.
Pour les moins de 30 ans, effectivement, vous le signalez, Arlette, merci. Et c'est pour voir, effectivement, pour étudier plusieurs cas défectueux. Donc voilà, juste pour être précis. Donc, je suis désolé, j'ai oublié de vous arrêter, parce que là, quand on parle de désinformation, c'est vous qui faites de la désinformation. Je suis désolé, Daniel.
Oui, vous est-ce que. Pas quand même tout le texte sous les yeux, mais quand même...
Mais c'est important, c'est pour ça quand...
Ils font une étude sur Moderna, on est d'accord. Donc c'est pas totalement faux ce que je dis.
Mais ça veut dire justement qu'ils sont vigilants, c'est bien. Non, mais... Bon, Daniel, merci en tout cas de nous avoir appelé sur Sud Radio. Merci à vous. Je pense qu'on va pas, de toute façon, on va pas continuer à réagir là-dessus. Bon, voilà.
Juste un petit truc sur la Suède qui commence Arlette. Une campagne pour la troisième dose.
Voilà.
Donc c'est pas qu'on arrête, on suspend pour l'utilisation du Moderna pour les moins de 30 ans et la Suède va rejoindre ceux qui vont proposer une dose de rappel dans les semaines qui viennent.
Merci Arlette, et comme ça on est Benjamin, tout à fait précis sur le sujet.
Régime que j'aime beaucoup, qui n'est pas mou, le Danemark, reprend absolument des exigences qu'il avait oubliées, qu'il avait décidé d'abandonner. On va plutôt dans le sens contraire.
Bien sûr.
Merci.
On poursuit alors rapidement avec Marine Montournoud qui nous a rejoint. Alors un sujet aussi, pour le coup, qui va faire polémique, qui fait déjà énormément polémique depuis hier soir. En l'occurrence, c'est un chiffre qui fait polémique, c'est 2%. Seuls 2% des hospitalisations seraient liées au Covid-19 pour l'année 2020. C'est l'ATIH, l'Agence Technique d'Information sur l'Hospitalisation, qui révèle ce chiffre. Comme quoi, on révèle justement tout ce qui sort et on fait le point justement avec vous, Marine, pour ça, parce que c'est vrai que ça paraît assez incroyable comme chiffre. Alors, comment on l'explique, Marine ?
Leur contexte. Et rappelez tout d'abord que l'épidémie, elle n'a commencé qu'à partir de la mi-mars. Au 15 mars, seulement 285 personnes étaient prises en charge dans les services de réanimation, contre 7000 au maximum de la première vague. La pression hospitalière n'a donc pas été constante. Entre le pic de l'épidémie en avril et la période creuse de l'été, il y a eu 14 fois moins de patients à l'hôpital. Les chiffres des hospitalisations sont donc lissés sur l'année entière. Autre point à noter, c'est la durée des hospitalisations qui a été plus longue pour les patients Covid que pour les autres. Ainsi, pour les seuls services de réanimation, les patients Covid ont représenté 11% du nombre de patients admis en 2020, mais un patient sur cinq en termes de journée d'hospitalisation.
Et les décès alors, Marina ?
J'allais y venir. Les décès associés à l'épidémie interpellent, car si le virus a concerné seulement 2% des hospitalisations, on lui doit 12% des décès survenus à l'hôpital sur l'année. Et cela augmente à 16% pour les seuls services de réanimation. En clair, pour l'année 2020 à l'hôpital, en nombre de patients, il y a eu peu de patients Covidés, effectivement, mais avec beaucoup plus de temps d'hospitalisation, notamment en réanimation. Et en proportion, ces patients Covidés ont aussi eu plus de chances d'y rester. Enfin, ce rapport ne rend pas vraiment compte des moyens humains, matériels, lourds, mis en œuvre pour la prise en charge des patients Covidés et évidemment la fatigue de nos soignants.
Merci beaucoup, Marine. Pour toutes ces précisions. On va réagir très rapidement. Alors, déjà, Arlette Chabot, ça vous avait surpris à première vue, ce chiffre-là?
Mais oui, mais quand on regarde dans le détail, on est moins surpris et on comprend pourquoi. Moi, je reprends le chiffre. 285 patients en hospitalisation, c'est ça, et on monte à 7000. Donc j'en déduis quand même qu'il y a une influence. Je ne sais pas bien compter, mais je pense qu'il y a quand même eu une influence. Après, si on lit sur toute l'année et on met tout, évidemment, c'est différent. Il y a eu une accalmie pendant l'été de l'épidémie. Donc il faut regarder avec précaution. Et je ne pense pas qu'il y ait un médecin présent ou travaillant dans un service de réanimation qui considère que cette épidémie était quand même extrêmement légère.
Bien sûr. Merci beaucoup, Arlette Chabot. Merci à vous également, infiniment, Philippe Bilger, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.
Merci, pour débattre.
Ça a été musclé, effectivement. Mais en tout cas, intéressant. C'est important de mettre un peu les points sur les i. Et en l'occurrence, de tout dire, de tout expliquer, bien sûr. 9h19 sur Sud Radio. En tout cas, on revient dans un instant avec au programme Marilyn.
Pierre Konesca qui nous parlera de cette conférence qui se tient aujourd'hui à Paris sur la situation de la Libye. A tout de suite, restez avec nous, il est 9h19 sur Sud Radio.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Marilyn Hérault.
9h22 sur Sud Radio, on accueille avec plaisir pour la suite de nos grands débats du matin Pierre Konesca, journaliste, historien, rédacteur en chef de la Cohorte, magazine de la SMLH, Société des membres de la Légion d'honneur, qui nous parle de cette conférence qui se tient aujourd'hui à Paris sur la situation en Libye.
Bonjour et un hochement de tête.
Bonjour.
Non, Pierre Konesca.
Non, je ne suis pas de la comité de rédaction de la SMLH, non, je suis ancien haut fonctionnaire. Actuellement retraité, écrivain, oui, c'est vrai. Mais
bon, je rajoute et j'enlève.
Il y a peut-être un homonyme, remarquez.
C'est une erreur, sans doute, effectivement, dans les notes. En tout cas, soyez le bienvenu, hein, Pierre Konesca, on est ravis de vous accueillir tout de même sur Sud Radio.
Merci de cette invitation.
C'était récemment les 10 ans de la mort de Kadhafi et donc de l'intervention militaire française. Le pays a connu depuis des années de chaos institutionnel, de guerre civile. La situation s'est-elle vraiment pacifiée, améliorée aujourd'hui depuis ?
Non, on ne peut pas dire que la situation s'est pacifiée. En fait, ce pays qui est un pays composite, hein, il ne faut pas l'oublier. Il faut toujours regarder un peu l'histoire longue quand on étudie une crise, parce que si la crise subsiste, c'est qu'il doit y avoir des fractures internes à un pays, à une société. Bon. Et effectivement, on s'aperçoit que depuis 10 ans, la situation sécuritaire a été grave, très grave, plus ou moins grave, etc. Mais toujours avec des processus de conférences. On doit être la 3e ou 4e conférence sur la Libye, avec des résultats qui sont toujours aussi difficiles à évaluer, puisqu'on promet des élections. Donc c'est toujours bien de promettre des élections, mais ensuite, il faut qu'il y ait des démocrates, il faut qu'il y ait des gens qui acceptent les élections, etc. Et en général, après la conférence, il y en a toujours une des parties qui conteste en disant « Mais non, en fait, c'est pas la bonne date, c'est pas les bonnes modalités, c'est pas le bon corps électoral, c'est pas les bons candidats, enfin bref. » Donc il y a une très grande mauvaise volonté de la part des acteurs libyens, donc j'espère que cette conférence-là sera un peu différente.
Ça commence en tout cas déjà mal, puisqu'ils seront tous, enfin en tout cas ils ne seront pas tous présents, ces acteurs libyens, pour cette conférence aujourd'hui. C'est pas surprenant de voir une telle conférence sans la Libye, quoi.
Bah, écoutez, je ne sais pas si j'ai peut-être raté les dernières nouvelles, mais en fait c'est vrai que c'est étonnant de constater qu'on va faire une conférence pour la paix en Libye sans les représentants libyens qui sont les acteurs de cette violence quand même. Et donc, est-ce que ça sera une conférence pour rien? Malheureusement, j'ai bien peur que oui. Et encore une fois, il faut renvoyer la responsabilité aux Libyens, quand même. Alors, il y a une responsabilité première de la France que le président a reconnue en d'autres circonstances, ça c'est certain, de même que les Britanniques, de même que les Américains, dans le renversement de Kadhafi et donc dans l'écroulement de ce régime. C'est un peu étonnant de penser que c'est la France qui organise une conférence internationale. C'est comme si on avait considéré que c'était aux Américains d'organiser une conférence sur la guerre du Vietnam, si vous voulez. On est un peu dans la même situation, bon. Mais enfin, espérons, le président Macron est de bonne volonté, on verra.
En tout cas, c'est justement ce rendez-vous, il doit se passer juste avant des élections générales en Libye, à venir très prochainement. C'est pas justement un motif d'espoir, parce qu'à vous entendre, là, il n'y a plus aucun espoir, quoi.
Non, mais c'est-à-dire, encore une fois, des élections... Est-ce que vous connaissez un pays sans tradition démocratique où les élections n'aient pas été discutées ou contestées de toute façon si elles ne donnaient pas le résultat escompté par l'une ou l'autre des partis ?
Ce qui a déjà été donc le cas en Libye, en tout cas.
Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire pour faire des élections, il faut un recensement électoral précis, il faut quand même des conditions de vérification des opérations électorales, etc., etc. Et or, dans un pays en conflit, dans lequel il y a effectivement deux partis qui contestent la légitimité de l'autre, espérons que la communauté internationale pourra fournir des observateurs qui, d'une manière ou d'une autre, garantiront une certaine honnêteté de ces élections, mais ensuite, il reste à ce que les partis reconnaissent les résultats, surtout ceux qui auraient perdu ces élections. Non, malheureusement, si vous voulez, ces 10 ans de guerre montrent que les Occidentaux ont été pris d'une espèce d'hubris de gendarmerie internationale après 91. Avec la disparition du grand ennemi soviétique, les Occidentaux se sont automandatés pour faire la police de la planète. Alors évidemment, on a été interpellés par la Yougoslavie, ce qui nous concernait directement. Mais ensuite, la machine s'est emballée. Et le paroxysme de ça, c'est effectivement la Libye, où vous avez un membre de ce que j'ai appelé le complexe militaro-intellectuel, de ces gens qui expliquent qu'il faut aller faire la guerre dans tel endroit.
On sait à Bernard-Henri Lévy.
Celui-là, mais il y en a plein d'autres, si vous voulez. Hein. Rappelez-vous la Somalie, rappelez-vous d'autres interventions, rappelez-vous que Chirac ne veut pas aller en Irak, mais que ses deux successeurs vont considérer que c'était une bévue. Et donc, on arrive à un point de basculement. Pour la première fois, on commence à considérer qu'au Mali, on s'est enlisé, qu'en Libye, on n'a pas les solutions, ou en tout cas, on a plutôt laissé la pagaille derrière soi, qu'en Syrie et en Irak, il faut sortir. Donc, on est dans la fin d'un cycle. Maintenant, on peut toujours organiser des conférences internationales, c'est moins dangereux.
Donc, c'est-à-dire que cette conférence, ce n'est pas une ingérence de plus de la part de la France, notamment, dans la situation libyenne ?
Je ne pense pas que ce soit dans l'idée du président de la République. Mais en tout cas, il reste que pour les Libyens, comme d'ailleurs beaucoup de pays arabes, cette idée qu'on va à nouveau organiser en Occident une conférence dans un pays où on a laissé une espèce de zone sans État, ce n'est peut-être pas la région, la localisation la meilleure. Maintenant, lequel des pays arabes aurait accepté, sans qu'on le suppose, si vous voulez, plein d'intentions malveillantes à l'égard de la Libye, aurait accepté d'organiser cette réunion ? L'Égypte, pays frontalier, on ne peut pas penser que c'était le plus objectif. L'Algérie, qui se considère comme un des phares du monde arabe, ma foi, on ne peut pas dire qu'elle aurait été un très grand intérêt à ce que cette manifestation se passe chez elle. Donc le Maroc a décidé qu'il n'y serait pas. Donc vous voyez, on est dans un monde, encore une fois, c'est devenu un monde sans paradigme. C'est un monde sans boussole.
Et pourtant, ce pays, il intéresse, la Libye intéresse beaucoup d'autres pays quand même.
Oh, il intéresse surtout des pays qui sont...
C'est un pays riche. La Turquie, justement, cherche à faire des repérages, justement, pétroliers, gaziers, du côté de la Libye. Ils sont rapprochés des autorités libyennes.
Oui, vous avez raison de signaler la présence de la Turquie, parce que, justement, une des conséquences de cet échec de ces interventionnistes militaires occidentaux, c'est qu'il y a des nouveaux acteurs qui disent « Mais nous, on peut très bien venir... » On a au moins une légitimité analogue à la vôtre pour le faire. Bon, donc ça ne veut pas dire qu'il y ait moins d'ingérence, ça veut dire que ce sont des ingérences différentes. Et effectivement, on trouve des deux côtés. On va trouver les Turcs d'un côté et puis le groupe Wagner de l'autre côté, c'est-à-dire le groupe russe. Hein, et on a donc aujourd'hui un retrait des Occidentaux, une ingérence dans ce conflit, comme d'ailleurs sur la Syrie, hein, c'est pareil. Deux acteurs nouveaux qui sont la Turquie et la Russie. Là aussi, c'est un bilan qui est assez négatif pour cette diplomatie occidentale depuis une vingtaine d'années.
Il y a des enjeux quand même importants pour l'Europe sur cette question libyenne. La stabilité, c'est important pour l'Europe. Quand on voit ce qui se passe, on en parlait tout à l'heure, du côté de la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, la Libye, c'est une porte d'entrée aussi sur ces flux migratoires ou ces pressions, ces chantages sur les questions de migration. Il y a quand même un enjeu important d'avoir cette stabilité-là.
Absolument, l'enjeu est essentiel pour les Occidentaux. Donc, première chose, il ne fallait pas démolir la Libye, ça aurait été une bonne précaution avant. Et là, on a deux enjeux qui sont essentiels, évidemment, qui est à la fois la maîtrise des ressources énergétiques, ça c'est en arrière-fond, et puis il y a la crise des migrants. Puisque depuis cette époque-là, effectivement, la Libye est une des portes ouvertes à cette migration, qui touche d'ailleurs surtout l'Italie, et pour laquelle l'Italie demande la solidarité internationale, mais encore une fois, on est face à un système où on n'est pas sûr que l'un ou l'autre des deux partenaires aurait les moyens ou la volonté d'arrêter ces flux migratoires. Et n'oubliez pas que ces flux migratoires arrivent du sud, d'Afrique subsaharienne. Bon. Donc on est à la fois avec des problèmes plus lointains, si vous voulez, une fonction de filtre que la Libye ne joue plus depuis son écroulement. Et donc, félicitations, merci Monsieur Bernard-Henri Lévy. J'insiste sur Bernard-Henri Lévy parce que j'ai lu une interview de lui qui était 2 ans après l'intervention. Et le journaliste lui disait « Quelle est votre position ?» Il disait « Mais si j'y suis pour quelque chose, tant mieux. » Et c'est très intéressant cette position, parce que c'est le représentant de cette catégorie que j'ai appelée le complexe militaro-intellectuel, de gens qui vous déclenchent une guerre. Bon, ils ne vont pas la faire, hein. C'est pas Malraux ni Régis Debray, hein. C'est des bellicistes et ils ne sont pas combattants. Et puis, c'est ce que j'ai appelé des intellectuels téfales, c'est-à-dire que là, aucune critique n'accroche. Mmh. Et donc, on a là, et il y en a d'autres, hein, je ne suis pas le seul, je pourrais vous en citer d'autres, mais c'est pour dire qu'on a bien quelque chose qui s'est déréglé dans le déclenchement de la violence, puisqu'on ne justifie pas une guerre, on justifie une action militaire juste. Vous voyez, le qualificatif a changé. On demande, bon, pour le cas de la Libye, c'est un peu différent, mais pour le cas de la, on voit bien que...
J'ai une question presque démocratique, finalement, de cette... possible intervention.
Oui, c'est-à-dire surtout une justification morale.
Morale, ouais.
Bon, faire la guerre pour des raisons morales, c'est pas vraiment la signification de la guerre. La guerre, c'est fait pour être gagnée. Et donc, partout où on a envoyé des militaires, si vous voulez, sans mandat, qui était de gagner une guerre, ben, ils sont très, très embêtés. Ils sont les moins bellicistes de toute la catégorie dont je vous parle. On a plein de gens.
Vous savez d'ailleurs si Bernard-Henri Lévy a été invité aujourd'hui?
Ben, je ne sais pas.
Pour cette conférence internationale.
Ils ont peut-être perdu son adresse. Il est peut-être quelque part sur la planète à la recherche d'une autre crise. Parce que, encore une fois, le personnage est moins intéressant que la mécanique. C'est-à-dire que ces gens-là vont passer d'une crise à une autre crise, à une autre crise, à une autre crise. Parce qu'après, ben, ce qui va rester derrière, si vous voulez, c'est moins intéressant que d'arriver en disant « un génocide se prépare au Darfour ». Mmh. Autour du génocide, on ne mobilise pas. Hein. Donc, il faut annoncer un génocide. Peu importe la réalité. Ce qui est important, c'est encore une fois, c'est que par le biais de la médiatisation... et c'est table ouverte pour BHL, quoi, quel que soit l'endroit d'où ils viennent, il y a une interpellation du politique, avec tout autour, qu'est-ce que vous comptez faire? Or, depuis 92, depuis 91, depuis la disparition de l'URSS, on n'est plus obligé de s'occuper de toutes les crises de la planète, puisqu'il n'y a pas une puissance en face, si vous voulez, qui va l'instrumentaliser si vous n'y allez pas. Donc, il y a un espèce de choix ouvert dans lequel la médiatisation pour le choix des crises est faite par ces gens-là.
Après, il y a des enjeux, on en parlait sur la question des migrations. On peut parler aussi des migrations avec l'urgence climatique qui va s'imposer. On a la question de la menace islamiste aussi, d'une certaine façon. Donc, ces enjeux, ils existent quand même d'une certaine façon.
Ah ben, ces enjeux existent, oui, mais moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est la dérive de la vie politique française. Vous avez un débat aujourd'hui autour de Zemmour et Mme Le Pen, comme si c'était eux qui avaient tué 290 personnes et fait 900 blessés dans les rues de Paris. Vous voyez discuter de la diplomatie française à l'égard de l'islamisme dans le débat politique? Ça a complètement disparu. C'est ce que je vous expliquais, c'est-à-dire que les décisions et la vie politique s'est recentrée sur la vie politique intérieure. Hollande prend une décision d'intervention au Mali parce qu'il a en perspective des élections. Et il dit, si je décide, je gagnerai quelques points. En fait, il va vite à Bamako pour dire « c'est le plus beau jour de ma vie ». Mais regardez ce qui reste à Bamako aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans la phase militaire d'enlisement.
Et bon, on verra en tout cas ce que se donne justement cette conférence internationale à Paris sur la Libye, bien sûr. Merci à vous, Pierre Colessa, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, dans un instant, autre sujet avec ce bracelet dont on parlera dans quelques instants. Je ne vous en dis pas plus. En tout cas, c'est une très belle initiative. À tout de suite sur Sud Radio.
À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Marilyn Hérault.
9h37 sur Sud Radio et on continue les grands débats du matin avec notre nouvelle invitée Diariata Ndiaye, artiste, activiste engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes, présidente, fondatrice de Appel et chevalier de l'Ordre National du Mérite. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Bonjour à vous, soyez bienvenue sur Sud Radio. Arcachon va proposer des bracelets de votre application mobile Appel. Hein. Marilyn le disait à l'instant, cette application. Déjà, quels seront les habitantes qui auront accès à ce bracelet, à cette application? Et comment ça se passe ce bracelet? Comment il fonctionne?
Alors, je vais tout d'abord parler de l'application, parce que le bracelet est rattaché à l'application.
Ils vont ensemble.
Donc, cette application existe depuis 2015. Elle a été créée et pensée pour les femmes victimes de violences, ainsi que leurs proches.
Je rappelle juste que c'est APP-LE2LES. Hein.
C'est ça, tout à fait.
Voilà.
Parce qu'on se rend compte que lorsqu'on est victime de violences, on nous demande d'appeler la police, d'appeler les secours, d'entrer en contact avec les personnes qui peuvent nous venir en aide, les associations, les structures, mais que généralement, les personnes ne peuvent pas appeler les secours ou elles ne connaissent pas assez toutes les personnes qui peuvent les accompagner dans leurs différentes démarches. Donc, cette application permet d'enclencher des alertes, d'appels à l'aide. On définit jusqu'à 3 personnes de confiance et ces 3 personnes de confiance, lorsqu'on est en difficulté, reçoivent une notification. Elles entendent en direct ce qui se passe, elles ont suivi GPS en temps réel. Et avec ces informations, elles sont capables de comprendre ce qui se passe et d'organiser des secours en soutien à la personne qui a appelé à l'aide. Et pour enclencher cette alerte, on a différents modes de déclenchement, dont le bracelet que la ville d'Arcachon a décidé de mettre à disposition de toutes les femmes de plus de 15 ans habitantes de la ville.
Ce dispositif, il est déjà en place dans d'autres villes ?
Alors, l'application, comme je le disais, elle existe depuis 2015. Oui. Elle est déjà utilisée par près de 80 000 personnes. Mmh. Donc, c'est un outil qui existe déjà, mais c'est la première fois qu'une municipalité décide de fournir les citoyennes, les habitantes de ce bracelet, parce que ce bracelet, effectivement, donc, qui est relié en Bluetooth, en faisant un appui long de 4 secondes, enclenche l'alerte. Mmh. On a d'autres modes de déclenchement, mais c'est vrai que dans plein de situations, on n'a pas le temps de sortir son téléphone, d'ouvrir l'application. Et donc, l'idée, c'est de faciliter l'enclenchement de cette alerte. Et c'est la première fois qu'une ville décide de doter l'ensemble de ses habitants.
Quel retour vous avez sur votre application jusqu'à présent ? Est-ce que ça a permis de sauver des vies ? Est-ce que vous avez des témoignages justement de femmes qui vous racontent l'avoir utilisée ?
Alors nous, on a beaucoup de personnes donc, qui utilisent l'application pour différentes raisons. Mmh. On a des personnes qui l'utilisent plutôt dans l'espace public et d'autres qui l'utilisent parce qu'elles sont victimes de violences, qu'elles viennent de quitter le conjoint et que c'est à cette période-là que c'est un petit peu compliqué pour elles. Mmh. Et donc, la plupart des retours que nous avons, ce sont des retours de victimes prises en charge par les associations qui sont équipées et qui ont enclenché, nous, on a entre 3000 et 5000 utilisations par mois. Donc, ça a amené à des arrestations, à des interventions de la police, dans plusieurs situations. Donc, effectivement, cette application n'empêche pas les violences. Elle permet simplement, lorsqu'on y est confronté, de faire intervenir les secours plus rapidement.
Mmh. Et c'est complémentaire avec d'autres initiatives. Alors, du côté du gouvernement, le 3919, on rappelle ce numéro pour les femmes victimes de violences, qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis cet été. Il y a aussi le dispositif téléphone grave danger dont on peut parler. Là, votre application, c'est vraiment finalement complémentaire de tout ce qui a été mis en place par ailleurs. À ce niveau-là, j'en parlais.
Alors, c'est complémentaire, ça s'adresse à tout le monde, parce que cette application est gratuite, elle peut être téléchargée donc sur Android ou sur iOS, en fait. Effectivement, cette application est complémentaire, tout simplement parce que le téléphone grave danger ne s'adresse qu'à une minorité de femmes victimes de violences. Ce sont celles qui sont en situation de grave danger, c'est le procureur qui remet ce téléphone à certaines femmes, et on en a à peu près 3000.
On a très peu, ouais, bien sûr. Mmh.
Donc là, cette application s'adresse à toutes les femmes. On peut l'utiliser dans plein de situations dans lesquelles la police ne peut pas intervenir, hein, parce qu'on ne peut pas appeler la police pour dire « Allô, j'ai peur ». Par contre, de prévenir des tiers de confiance qui suivent notre trajet, qui entendent de ce qui se passe et qui peuvent intervenir en cas de danger, ça permet de couvrir plein de situations qui ne sont pas couvertes. Et pour revenir sur le 3919, effectivement, il y a ce numéro et il y a énormément de structures en France qui proposent de l'accompagnement juridique, de l'hébergement d'urgence, de l'écoute, de l'accompagnement de toutes ces personnes. Et dans l'application Appel, on a vraiment centralisé tous les dispositifs existants et on facilite l'accès vers tous ces professionnels qui peuvent venir en aide et en soutien.
Et comme le Marilyn le rappelait, hein, c'est cette application, eh bien c'est APLA2P-E2LES. Apostrophe en tout cas, plus que tiré d'ailleurs. Merci.
Non, tiré.
Ah, c'est tiré. Ah bah voilà.
Ouais, autant pour moi. C'était ça.
Merci beaucoup, Diarrieta Ndiaye, d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci. Artiste, activiste engagée. Oui.
Je vous invite donc toutes et tous à la télécharger.
Bien
elle
sûr,
est gratuite.
Ouais.
Elle est
et c'est à partir de 15 ans, c'est
sans
ça
collecte de données. Pour télécharger l'application, il suffit d'avoir un téléphone. Donc, n'hésitez pas à la télécharger. Vous pouvez utiliser l'alerte sans le bracelet et avec, c'est encore mieux.
Merci beaucoup, Diarrieta Ndiaye, donc présidente fondatrice d'Appel. Merci à vous, bonne journée.
9h43 sur Sud Radio. Dans un instant, c'est la France à vos côtés. Dans quelques instants, restez avec nous sur Sud Radio.